La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou à Paris, nous parlons de la sulfureuse Beat Generation. Une exposition que nous irons bien entendu visiter jeudi prochain. Ce sera aussi l'occasion d'entendre le témoignage de celui que l'on pourrait définir comme un correspondant français de la Beat Generation, un artiste qui les a fréquentés et qui a vécu avec eux dans le fameux Beat Hotel de Paris. Il s'agit de Jean-Jacques Lebel, co-commissaire de cette exposition. Mercredi, nous nous arrêterons avec Gilles Farcé sur la figure d'Allen Ginsberg, l'auteur du fameux poème Owl, un homme imprégné par la spiritualité orientale pour qui, davantage encore peut-être que pour les autres, le mot Beat Generation signifiait d'abord génération béate. Demain, William Burroughs sera au cœur de notre émission, l'auteur de Junkie et du Festin nu qui tua sa femme en jouant à Guillaume Tell. Gérard Georges Lemaire nous dira qui il était. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, bien sûr, c'est avec Jack Kerouac que cette série commence, l'auteur du célèbre Sur la route, livre fondateur pour toute une jeunesse éprise d'expériences limites et de liberté, livre dans lequel apparaissent aussi, sous leur vrai nom, les compagnons déjà cités de la Beat Generation. Nous en parlons avec l'écrivain Yves Buin, auteur notamment d'une biographie de Kerouac sortie chez Gallimard en 2006 dans la collection Folio Biographie. Yves Buin qui a par ailleurs exercé la profession de psychiatre. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Mon cher Jack, après un tour à Indianapolis à l'occasion de sa grande course annuelle, j'avais filé jusqu'à South Bend, histoire de voir jouer Notre-Dame. Et ensuite, j'étais descendu sur la Californie, direction LA. Résultat, j'avais durant tout ce périple compris que si l'on veut que ça roule, il faut lever le pouce dans la journée et attendre la nuit pour taxer une bagnole. Et donc, une fois de retour à Denver, j'ai appliqué ce principe. Je finissais toujours par dénicher ici ou là une baignoire pour y dormir, puis au réveil, je faisais le tour des copains susceptibles de me nourrir gratos, et enfin, je volais une voiture afin d'aller cueillir une fille à la sortie de l'école. Il m'arrivait même de changer de véhicule en plein milieu de l'après-midi. Mais dans tous les cas, je levais toujours un jupon que j'emmenais passer la nuit dans les montagnes, puis aux premières lueurs du jour, je réintégrais ma baignoire. Au bout de quelques temps, j'en ai eu ma claque de ce genre d'existence, et j'ai recaressé le projet d'une virée en Californie. Un de mes potes, Bill Smith, a souhaité en être. Et donc, un matin du printemps 41, j'avais tout juste 15 ans, on a volé une Plymouth au coin de Stout et de la 16e rue. Problème, plus une goutte d'essence en arrivant à Colorado Springs. Mais quelle importance quant à l'œil. Et l'œil, je l'avais. Un bloc plus loin, j'ai repéré une Buick 38 garée le long du trottoir. Je m'y suis installé et le temps de reprendre Bill, nous étions déjà repartis.
Bonjour Yves Buin.
Bonjour.
Alors c'était une lettre de Neil Cassidy à son ami Jack Kerouac et c'est un peu comme s'il y avait là tout l'esprit de la Beat Generation, la route, le vol, les filles, la liberté, la jeunesse. Vous diriez que ça résume bien l'esprit de la Beat Generation ?
Oui, ça la résume en partie, mais il y a toute la dimension spirituelle qui n'est pas présente là. Parce que Cassidy était lui... un théosophe, il cherchait des solutions en dehors des grandes religions traditionnelles. Mais effectivement, le mouvement, la vie avant tout, et la vie dans tous ses aspects, c'est son épanouissement, vécu dans toutes ses intensités, sans concession, dans une Amérique extrêmement difficile. Parce que si on restitue, disons, l'évolution vers la Beat Generation, ça passe d'abord par un concept, qui, si l'on veut, qui s'appelait la vision nouvelle de Ginsberg et Kerouac. Mais tous deux ont vécu leur enfance dans la Grande Dépression des années 30, qui s'est poursuivie pratiquement jusqu'à la guerre mondiale. Ensuite, le contexte de la guerre mondiale. Et après la fin de la guerre mondiale, le McCarthyisme. Donc ils ont été servis du point de vue des tensions sociales et politiques.
Sans ce contexte-là, il n'y a pas de Beat Generation telle qu'on la connaît, selon vous ?
Je pense qu'il y a des clichés sur la Beat Generation. En particulier, c'est pas un mouvement. Ah. C'est pas un mouvement. C'est des individus qui se sont rencontrés, pas par hasard, parce que le hasard, c'est, comme disait Balzac, c'est le meilleur romancier. Donc, ils se sont rencontrés dans les années fin de la guerre en 44. Au printemps 44, il y a eu une constellation qui s'est rencontrée. Bon, les noms les plus connus, évidemment, c'est Kerouac, Ginsberg et Burroughs, hein. Mais, par exemple, Burroughs se réclamait pas de la Beat Generation. De même que Gregory Corso, qui va apparaître dans les années 50, se prétendait pas du tout de la Beat Generation. Donc ça se résume à Kerouac et Ginsberg.
Parce que eux se revendiquaient.
C'est-à-dire que Kerouac l'a revendiqué. Et en particulier à partir de 54, quand il parle de la génération de la béatitude. Il y a trois acceptions à Beat Generation, vous les connaissez sans doute. La première acception, c'est celle qu'avait donnée Herbert Tunke, un ami de Burroughs de Times Square, qui avait dit « Nous sommes des beats, nous sommes des battus, nous sommes des écrasés ». Première acception. Deuxième acception, celle qui est liée au jazz. Le beat du jazz, le tempo du jazz. Nous sommes la Beat Generation. Et puis la troisième acception, beaucoup plus tardive, celle qui a revendiqué Kerouac. Nous sommes la génération de la béatitude.
Alors vous, Yves Buin, je l'ai dit en introduction, vous avez exercé le métier de pédopsychiatre.
Je l'exerce toujours.
Vous l'exercez toujours, pardonnez-moi. Mmh. Est-ce que cela a à voir avec votre intérêt, votre passion pour la jeunesse de la Beat Generation ?
Non, honnêtement non. J'ai toujours assez dissocié tout ce qui était de la sphère professionnelle, de la sphère artistique, si l'on peut, ou esthétique. Non, mais là, je peux avoir une sensibilité quand je vois l'enfance de Kerouac, ponctuée en particulier par la mort de son frère adoré, Gérard, quand Kerouac a 4 ans et que Gérard meurt à 9 ans, là, il y a quelque chose qui a dû se passer dans la vie de Kerouac, c'est évident.
Surtout que sa mère lui dit « C'est toi, Jack, qui aurais dû mourir à la place de ton frère. »
Oui, au cours d'une altercation, quelques temps après, sa mère lui dit cette phrase « Assassine, effectivement, c'est pas toi, c'est pas lui qui aurait dû mourir, c'était puisqu'il a été sanctifié, hein, Gérard. C'est un petit saint François d'Assise. » Et elle dit à Kerouac que c'est toi qui aurais dû mourir. Voilà. Donc c'est une phrase assassine. Mais en même temps, cette mère a beaucoup aimé Kerouac et lui a permis d'être écrivain. Peut-être on y reviendra dans le cours de l'émission.
Parce que cette mère, qu'il appelait d'ailleurs affectueusement « mes mères », il entretient avec elle des relations très très fortes, des relations qu'on pourrait qualifier, je m'adresse encore ici au psychiatre, quoiqu'il faudrait plutôt parler à un psychanalyste, d'une relation oedipienne, très forte, mal gérée.
Il y a effectivement, dans cette relation avec sa mère, une dimension qu'on pourrait dire incestuelle. Pas incestueuse, incestuelle. Un climat comme ça de passion et de protection en même temps. Parce que mes mères, comme on dit, étaient très protectrices par rapport à Kerouac. Elle voyait bien ses failles. Et en particulier, ses relations, un peu, vous avez employé le terme de sulfureux tout à l'heure, des relations. Est-ce qu'elle était antisémite? C'est difficile de l'affirmer, mais Ginsberg était quand même un juif pour elle. Hein. Cassady était un voyou. Burroughs était une personnalité étrange. Donc elle disait, tu fréquentes ces gens-là, quoi. Alors que tu aurais pu être un bon catholique.
Et son fils, c'était quoi pour elle, alors?
Son fils, le papa, Léo, qui est mort en 46, et sa mère, même donc la mère de Kerouac, avait comme ambition pour leur fils d'en faire un agent d'assurance. hein, faire quelques des études à l'université et se destiner aux assurances. Et puis, évidemment, Kerouac n'a pas suivi cet itinéraire, et il a suivi un parcours beaucoup plus chaotique et en même temps fécond. Il est fécond parce que chaotique. Et donc, il l'a déçu. Mais en même temps, elle lui a permis d'être écrivain. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que chaque fois qu'il revenait de randonnée, il était sans un sou. Il revenait au foyer quand même, où le gîte et le couvert étaient assurés. Et je dirais même la blanchisserie. Et elle l'entretenait.
Alors tout de même, il est né dans les mots, ou plutôt, il serait plus juste de dire qu'il est né dans l'encre, puisque son père travaillait les mains dans l'encre.
Et oui, puis... son père était imprimeur. Et très tôt, Kerouac allait visiter son père au Spotlight, qui était l'imprimerie du père, qui était un moment propriétaire, et puis ensuite il est redevenu ouvrier imprimeur, à la suite de la Grande Dépression.
Mais il avait lancé quand même une petite publication de théâtre, son père.
Oui, oui, il était une personnalité compliquée, parce qu'il était à la fois cet ouvrier imprimeur, très, très manuel, très, très soucieux de son métier, et en même temps, il faisait des phrases, qu'il allait dans les bars, il allait aux courses, et il n'était pas empreint d'un certain anticonformisme. Donc, pour revenir à votre question, Kerouac a effectivement fréquenté l'imprimerie du père très tôt. Il a senti l'encre d'imprimerie jusqu'à l'ivresse. Et il a composé des petits journaux très tôt, dès l'école primaire, qu'il distribuait à ses camarades, en particulier sur le sport.
Des bandes dessinées aussi, des bulletins de courses imaginaires. Il a même publié dans un journal local une chronique qui prédisait le résultat d'un match de boxe à la reprise près.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous diriez qu'il y a de la révolte dans cette jeunesse-là, ou c'est une jeunesse, somme toute, assez classique, voire banale ?
Dans celle qui va fonder la Beat Generation ?
Peut-être avant, dans celle de Lowell, cette petite ville entre le Québec et New York.
Oui, ben, Lowell est une petite ville industrielle, et en particulier qui était textile, qui a été le lieu natal de Kerouac. Et c'était une jeunesse, je dirais, adolescente, quand on voit ses camarades, à part Sébastien Sampas, qui était un type très en avance, qui est mort très tôt à la guerre, en 44, à 21 ans, mais qui était un initiateur de Kerouac à la poésie, etc. Et puis, les autres, qui étaient des amateurs de baseball ou de football américain, ont dit que deux de ses camarades, qui s'appelaient Ray Saint-Louis et l'autre qui s'appelait McNulty, lui ont fait fumer du hashish dès 14 ans. On le dit.
Est-ce bien grave ? Alors Yves Buin, quand on est français, qu'on entend ce nom de Kerouac, et quand on a passé ses vacances en Bretagne, on se dit, tiens, ça sonne un petit peu familier quand même. Ça vient d'où ce nom de Kerouac ?
Alors, il y a effectivement toute une généalogie qui a été étudiée par Patricia Laugier, qui est une archiviste, et qui a donc trouvé les origines de la famille Kerouac à Plemnoir, en Bretagne, et avec un urbain qui a pris le nom de Lebris de Kerouac ensuite, mais qui s'appelait Urbain, et qui est parti en 1727 au Québec.
Donc il a fait une fixation un petit peu sur cette généalogie bretonne.
Oui, très fantasmatique, très fantasmatique. C'est-à-dire que effectivement son père lui aurait dit, parce que ça... C'est lui qui l'a dit, mais son père lui aurait donc dit un jour « N'oublie jamais que tu es breton ». Bon, voilà. Parole fondatrice. Alors il a eu ce mythe de la Bretagne, des origines, qui est toujours un mythe un peu dangereux de vouloir retourner sur ses origines. Il a fait un voyage en Bretagne tout à fait folklorique et je dirais même désastreux, qu'il a relaté dans Satory à Paris, où il a été un week-end à Brest, où il a rencontré un lobris, justement, pharmacien.
Comme il y en a beaucoup à Brest.
Oui. Et il a essayé de travailler là sa généalogie, mais il était ivre 24 heures sur 24. Donc c'était un fiasco. Mais il l'a raconté avec humour.
Alors il avait l'accent québécois quand même très fort.
Il avait l'accent. Il parlait le canuc. Hein. Et d'ailleurs, nos amis canadiens des éditions Boréales viennent justement d'éditer un livre avec des inédits en français de Kerouac qui ont été retrouvés dans ses archives en 2006. Et il vient de paraître. Donc je peux en dire peu, mais néanmoins, on sait que Kerouac parlait le canuc, le français dérivé, avec sa mère et son père, c'était la deuxième génération des immigrés, parce que Kerouac est un immigré, comme Ginsberg. Ses parents étaient des immigrés russes. Et donc c'est très important pour la
bidgénération. Toute l'Amérique est un peu immigrée.
Oui, mais Burroughs n'est pas un immigré, Corso... on peut dire qu'il est aussi vient de la petite Italie, etc. Donc je reviens sur la pratique du français par Kerouac. Il l'a pratiqué jusqu'à son entrée à l'école. Et il a appris l'anglais seulement à l'école primaire.
Mais alors ça, c'est à peine croyable. C'est-à-dire qu'il va écrire dans une langue qui n'est pas la langue de son imaginaire d'enfance.
Avec l'anglais ?
Oui.
Ah ben c'est parce que c'est dans son autre mythologie de devenir un vrai Américain. Donc, il pourra devenir un vrai Américain. Il faut vraiment parler bien l'Américain. Et il va donc, mais c'est sa seconde langue. Mais il va l'écrire comme si c'était sa première langue.
Et il parlera mieux américain, anglo-américain que français du Québec?
Oui. Oui. Parce que là, on voit dans le livre qui s'appelle d'ailleurs La vie est dommage, mais le livre des Québécois, là. La vie est dommage, hommage étant comme un hommage, hein, pas comme un dommage. Eh bien, c'est un français très très accentué par les dialectes canadiens, mais il comprenait bien le français.
Ça se retrouve peut-être dans son écriture, dans son style qui est extrêmement oral.
Oui. Non. À mon avis, non. À mon avis, c'est l'américain qui prime et qui est prégnant. Et en particulier par le truchement de la langue des Noirs américains. Qu'il va adopter.
Parce que la formation, il vient de Kerouac. Bon, d'abord, il faut dire que l'école, c'est pas tout à fait son truc, mais il va quand même se retrouver dans la prestigieuse université Ivy League de Columbia. Alors, comment ça se fait tout ça?
Alors, il s'y retrouve comme un certain nombre d'étudiants par une bourse. Une bourse qui est corrélée au sport.
Voilà, c'est un sportif en fait.
Ah, il était même très doué pour le football américain. Il voulait une carrière professionnelle. Donc il va à l'université avec cette bourse et il se met à étudier les humanités. Mais il va être un très mauvais étudiant, un très grand autodidacte et un très mauvais étudiant. Kerouac sera quelqu'un d'extrêmement cultivé. Comme Ginsberg. Ginsberg était extrêmement cultivé, était même docteur. Il avait fait un PhD.
Ginsberg. Un doctorat, oui.
Oui. Tandis que Kerouac va s'arrêter au bout de la deuxième année et errer dans New York, etc. Mais il a quand même été à l'université. Il a suivi les cours de Mark Van Doren, qui était le grand professeur de littérature de l'époque.
Je propose d'écouter la voix de Kerouac qui lit, bien des années après le moment que nous évoquons, l'un de ses romans, Dr. Sax.
To its source, huh? To its source. Yeah, says Dr. Sachs. Jean Plouffe was a great man. Must pay him a visit. I've been watching Jean for years. He was always one of my favorites. As Phantom of the Night, I got to know and see a lot of people. I once wrote a story about one of my minor adventures, which I've since lost.
Donc, Dr. Sax, Yves Buin, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Jack Dulioz, qui vit dans une ville ouvrière de la Nouvelle-Angleterre, laquelle ressemble évidemment beaucoup à Lowell. Et ce petit garçon, il rencontre un personnage imaginaire qui est en quelque sorte son double et qui s'appelle le Dr. Sax. Alors, Kerouac se projette beaucoup dans ses livres et quasiment toute son œuvre, ça va être une projection quasiment autobiographique. Est-ce qu'on peut même dire autobiographique ?
Alors, là on est dans le registre de ce qu'on appelle maintenant, de termes un peu convenus, l'autofiction légendaire. Il est dans ce registre-là. Il raconte sa vie à partir de Sur la route. Le précédent, qui s'appelait The Town and the City, est quelque chose de différent. C'est aussi des éléments biographiques qui se projettent sur cinq frères Martin, qui sont les personnages de The Town and the City. Donc on peut dire qu'il y a un lien, évidemment, avec sa vie. Mais où c'est le plus manifeste, c'est à partir de Sur la route. Où là, grâce à l'influence de Neil Cassady, qui lui a dit cette parole fondamentale en lui disant « Il ne faut rien ajouter à la vie, la fiction, c'est pas parce que la fiction est fausse finalement. »
Il faut juste accueillir le flux de la vie.
Voilà, c'est ce que faisait Cassady, qui est un personnage capital pour Kerouac évidemment. Donc, il va prendre ses distances par rapport à une forme classique pour justement se lancer dans la légende de Duluoz, qui est le titre générique de ses 18 livres de fiction. Donc, il est, si on veut, en rupture avec la forme traditionnelle, mais pas complètement non plus. Il est un grand admirateur d'un certain nombre de grands romanciers américains qu'il citera et de français. Il dira même un moment, et là c'est dans un texte récent qu'on a trouvé de lui sur Céline, il dit « Céline est mon maître ».
Alors ça, on entendra tout à l'heure une archive où il évoque justement cela. Ça signifie bien qu'il a toujours voulu écrire, il savait qu'il voulait être écrivain, et cela très jeune.
Très tôt. Il a été remarqué par une bibliothécaire de Lowell et son institutrice, sa première prof à la high school, qui lui ont dit « T'es un raconteur d'histoire. » En plus, il avait une mémoire fabuleuse. Il pouvait vous restituer une conversation qu'on avait eue il y a 20 ans auparavant, puisqu'on l'appelait Memory Babe, le mot mémoire. Il savait qu'il allait écrire.
Mais avant d'y arriver, beaucoup d'obstacles sur son chemin. D'abord, son père n'admet pas qu'il devienne écrivain. Il y a la guerre. Il y a la marine marchande, et là, jusqu'à sa réforme en 1943, il va vivre diverses péripéties.
Oui, écoutez, les premiers écrits que l'on a de lui, c'est quand même quand il a 20 ans. In the Road Memories, les choses comme ça. Donc il a écrit très tôt. Très tôt. Il a écrit déjà des articles quand il était au Horace Mann, l'école préparatoire à Columbia, à New York. Non, il a écrit tout le temps. Il savait qu'il serait un écrivain, et non seulement il savait, mais il voulait être le plus grand écrivain de tous les temps, ce qui est le fantasme mégalomaniaque de tous les écrivains. Mais il l'a cultivé.
Mais le plus important, le plus marquant, Yves Buin, c'est l'automne 1942. Au moment où commence réellement l'histoire de la Beat Generation, avec sa liaison avec une jeune fille, Eddie Parker, qui est une jeune fille de la bourgeoisie du Michigan.
Oui, il faudrait même faire une petite incidence sur le rôle des femmes dans la Beat Generation.
Oui, c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup, les femmes, dans la Beat Generation.
Il y a le livre de Joey Johnson Glassman sur les personnages secondaires, vous l'avez lu. Mais les femmes ont joué un rôle de liaison essentiel. Il y en a au moins deux, sinon trois. Il y a donc Eddie Parker, qui va connaître Lucien Carr, qui connaît Ginsberg, qui connaît Burroughs, et la liaison va se faire en 3 mois, vous savez. Et il y a Joan Volmer Adams, l'épouse de Burroughs, qui, elle, avec dans son appartement de la 115e rue, va être une espèce de lieu de rencontre quotidien et permanent, avec toute la bohème new-yorkaise qui était à la recherche d'un nouveau style de vie.
Mais pourquoi est-ce qu'elles sont tellement en second plan ?
Est-ce que c'est le machisme ? Non, je dirais que c'est une affaire d'hommes, parce que ceux qui se sont retrouvés, c'était des hommes. Et en plus, qui étaient de tendance homosexuelle. Bon, Kerouac était bisexuel, c'est clair. Avec une dominante
plutôt hétérosexuelle quand même.
avec une dominante hétérosexuelle.
C'était de la curiosité pour lui.
Il a déclenché des amours.
Ah, il a déclenché des amours, oui. Mais lui-même n'a jamais été réellement amoureux d'un garçon, si.
Ginsberg, Cassady. Alors c'est peut-être platonique, mais c'est pas tellement platonique avec Ginsberg.
Qu'est-ce qui les rapproche, tous ces membres de la Beat Generation en train de se fonder?
La vision nouvelle, changer la vie.
Alors en 1946, Yves Buin, le père de Kerouac, meurt et à partir de là commence la partie de sa vie qu'on pourrait appeler sa vie sur la route.
Alors il avait toujours voulu voyager, mais il ne faut pas se tromper non plus sur son caractère de voyageur. Ses voyages étaient quand même très limités dans le temps. J'avais fait le décompte quand je faisais ma biographie, en mois, de ce que représentaient les virées de Kerouac avec Cassady, etc. C'est pas énorme.
Oui, c'est pour ça que vous parliez de randonnée, un mot un peu étonnant, parce qu'on a l'impression d'un long voyage. Mais non, c'est des randonnées, en fait.
C'est vrai que faire du stop entre Chicago et Denver, c'est un long voyage. Mais ça reste daté dans le temps. Donc il faisait des échappées, si on peut dire comme ça, parce qu'il n'en pouvait plus d'être à New York ou d'être chez sa mère ou avec une femme, etc.
Donc c'est de la fuite, c'est ça ?
Non, c'est le goût du mouvement. C'est le goût du mouvement. Ah bah, probablement qu'on se fuit toujours un peu, mais on se retrouve sur le tarmac de l'aéroport où on atterrit. Donc il y a du mouvement. Il y a l'envie de découvrir les merveilleux paysages américains dont il est amoureux, dont il est contemplatif. Et dans Sur la route, c'est particulièrement en évidence, mais pas seulement dans Sur la route. Donc, il a cette pulsion du voyage des pionniers américains, toujours aller loin vers l'ouest.
Et c'est une référence explicite pour lui, ça, les pionniers américains?
Ah oui, je veux être un vrai Américain. Il a aussi des côtés bibliques.
Il n'aurait pas fait le même voyage au Canada, depuis Québec jusqu'à Vancouver? Ça n'aurait pas été la même chose?
Non, ça ne peut pas être la même chose. L'Amérique est trop diverse, trop attirante, trop variée, et c'est ça qui l'intéressait. Mais il aimait beaucoup les petites villes américaines, hein, il en parle beaucoup. Il célèbre pas que New York ou San Francisco ou Los Angeles très peu, Mexico, mais il aime les petites villes américaines. Par exemple, quand il passe une nuit à Butte, dans le Montana, il le raconte dans son journal de bord, qui est très intéressant, qui est paru en décembre dernier chez Gallimard, et qui relate ses réflexions entre 47 et 54 sur la littérature. Très intéressant. Eh ben, à Butte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à Butte?
Oui, qui est une affreuse ville minière, c'est ça?
Ben oui, et puis vous l'avez dans le film de Wim Wenders avec Sam Shepard. Vous savez, Don't Knock, je sais plus quoi. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à Butte? Et en fait, il aime Butte. Il va aller dans un saloon, il va aimer les gens qui sont au bar et tout ça. Donc, il aime les petites villes américaines.
Mais quand il voyage, est-ce qu'il a le projet d'écrire un livre à partir de ses voyages ou il voyage et il va se faire qu'il va écrire un livre?
Il écrit tout le temps. Il a des carnets sur lui, il est tout le temps en train de prendre des notes, il est tout le temps en train de noter des choses pour qu'il les exploite éventuellement plus tard. Parfois, c'est des fragments de poèmes, etc. Mais il a des carnets dans ses poches, tout le temps il écrit. Donc il est inspiré partout. Et les paysages américains l'inspirent. Parce que, je répète, la vision mystique de Kerouac est fondamentale, elle est là, elle est permanente, et elle lui ouvre, elle l'éveille. Elle lui ouvre la route, elle l'éveille. Et si on ne comprend rien à Kerouac, si on occulte la dimension mystique, alors là, on est à côté de la plaque complètement.
Autant que Ginsberg.
Oui, mais Ginsberg, il est plus calme. Il a été très agité, mais disons que quand il est entré dans le bouddhisme, quelque chose s'est passé pour lui. Il a eu un maître, Shogyan Trungpa. Bon, et Ginsberg, il était éclectique aussi, mais néanmoins, il s'est accroché au bouddhisme. Et puis, il a eu des liens avec la réalité qui l'ont beaucoup aidé, en s'engageant dans les mouvements politiques contestataires des années 60-70. Kerouac était très à distance de tout ça.
Et il faut dire que sa famille était très catholique aussi.
Intégriste, pratiquement. La mère était pratiquement intégriste. Ou fondamentaliste, selon eux. Mais dans ses ouvrages, il est tout le temps en train de se... Il prie avant d'écrire. Et il dit qu'il veut trouver la face cachée de Dieu. Donc, il est extraordinaire pour ça. Dans son journal de bord, il y a des dessins sans arrêt de Jésus à toutes les pages. Non, c'était un dévot.
Alors, on va continuer de parler de tout cela avec vous, Yves Bugin, mais tout de suite, c'est le moment de retrouver en compagnie des revues. En compagnie des revues avec aujourd'hui le directeur de l'hebdomadaire Le 1 en la personne d'Éric Fotorino. Bonjour Éric.
Bonjour Mathieu.
Alors la menace du Brexit est à la une de votre magazine et vous cherchez à travers Stefan Zweig à nous éclairer sur la particularité du sentiment européen.
Oui, c'est un petit texte, vous savez, qu'on publie chaque semaine à la Une du 1. On choisit un auteur du patrimoine, de la mémoire. L'actualité, c'est aussi avoir de la mémoire. Et Zweig écrit que l'idée européenne n'est pas un sentiment premier, comme le sentiment patriotique, mais qu'elle naît d'une réflexion. Il a cette belle expression, il dit, elle est le fruit lentement mûri d'une pensée élevée. Alors c'est vrai qu'entre l'égoïsme sacré du nationalisme et l'altruisme sacré du sentiment européen, eh bien, il y a une différence profonde qu'il pointait déjà, c'est en son appel aux Européens, hein, au début des années 30. Et alors, il dit que le sentiment national, lui, est organisé depuis des siècles. Par quoi ? Par l'enseignement, par l'armée, par l'uniforme, par les journaux, les hymnes et les insignes. Autrement dit, c'est vrai que l'Europe n'a pas trouvé ce sentiment aussi fédérateur qui cristallise justement un affect et même un amour.
On pourrait objecter que les élites cosmopolites du temps de Stefan Zweig, comme aujourd'hui, ont peut-être immédiatement un sentiment pro-européen.
Oui, c'est vrai, mais ce sentiment européen, paradoxalement, s'est délité à mesure que l'Europe se faisait d'une certaine façon. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit ensuite l'écrivain écossais Kenneth White, qui a une particularité, enfin plusieurs particularités, puisqu'il a créé un institut de géopoétique. Vous voyez, c'est quelque chose, il faut être très précis sur les mots. Et dans le texte qu'il nous a donné, donc Kenneth White a quitté l'Écosse, la Grande-Bretagne, au début des années 60, fin des années 60 plutôt, et il se retrouve en Bretagne. Et là, donc, il regarde son pays de loin et le Royaume-Uni de plus loin. Et ce qu'il dit finalement, il s'en réfère à Aristide Briand, toujours la même période que les écrits de Zweig, qui voulait d'abord une Europe économique, une Europe politique et sociétale. Et lui dit, et Kenneth White, mais on aurait dû commencer par la culture. On aurait dû commencer par trouver un socle mental, une base mentale commune et solide.
Donc ça, c'est la vision écossaise. Voilà. Que vous souhaitez relayer.
Exactement.
C'est peut-être bien importante. Oui. Après le référendum.
Exactement. Peut-être un Scotexit, si jamais il y avait un Brexit, c'est-à-dire des Écossais qui, quittant ce Royaume-Uni désuni, voudraient refrapper à la porte de l'Europe pour en faire partie.
Une grosse semaine pour l'Europe. Enfin, dans vos colonnes, le texte du politiste allemand Jan Werner Müller.
Oui. Alors Jan Werner Müller, c'est intéressant parce qu'il soulève ce paradoxe que finalement la Grande-Bretagne, en tout cas une partie des Anglais et des veulent quitter l'Europe qui s'est reconstruite à leur image ou quasiment. C'est-à-dire que qui a été le plus grand avocat du marché unique, du libéralisme, de la libre circulation des biens et des personnes ? C'est Margaret Thatcher. Qui a voulu l'élargissement à l'Est pour compenser d'une certaine manière la force allemande ? Ça a été le Royaume-Uni. Donc ce que dit Jan Werner Müller, c'est que finalement... les Anglais disent, on est les otages, on est dans le coffre d'une voiture, on veut en sortir. Ils disent, ils vont repartir avec une toute petite voiture, avec une mini, et ils n'ont même pas vu que tous leurs fantasmes fédéralistes, etc., sont morts, et qu'en réalité, les institutions européennes sont largement britanniques depuis 1973.
Voilà, ils nous laisseront une Europe anglaise. Merci beaucoup, Éric Fotorino, pour se procurer Merci. Le 1. Comment fait-on ?
Alors, chaque semaine dans les kiosques, les marchands de journaux, on peut aussi évidemment s'abonner.
Merci. We'll be right back. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous entamons une semaine consacrée à la Beat Generation. Aujourd'hui, Yves Buin revient sur le parcours de Jack Kerouac.
Moi, je trouve que le plus grand écrivain du monde, c'est Louis-Ferdinand Céline. Après ça, je dis que Genet est un grand écrivain. Il y a seulement deux grands écrivains aujourd'hui. Oh, mais il y a un autre, il y a un grand satiriste. William Seward Burroughs, de la fortune de la Burroughs Adding Machine. Tu connais la Burroughs Adding Machine? Mais il est un descendant de son grand-père a inventé ça. Et of course, Allen Ginsberg et Gregory Corso, italien. Mais Sartre, Camus, Michaud, et Malraux, et Mauriac, et Morois, et Gide, c'était des... Moi, je dis que les grands écrivains, ils gagnent jamais les grands prix. Ils donneront jamais le grand prix à Céline, et à Genet, et à Burroughs.
Et à Kerouac?
Ah oui, moi, je suis populaire. Je peux avoir les prix si je les... Mais quand ils m'offrent le prix, s'ils m'offrent le prix Nobel Prize, quand j'ai 50 ans, s'ils n'ont pas encore donné à Louis-Ferdinand Céline, si Céline est encore en vie, on dit non, je ne veux pas avant que vous donne à mon maître.
Vous la connaissez évidemment cette archive, Yves Buin.
Oui. Oui. Alors vous avez vu qu'il l'appelle Louis-Bertrand Céline. Bon, c'est pas grave. Oui, mais comment peut-on éviter quand on est écrivain de se mesurer à Céline, même sans employer son style et en dissociant très artificiellement, je crois d'ailleurs, le personnage de son œuvre. C'est un tout. Il faut l'accepter comme ça. Et puis, alors, on peut avoir des opinions, bien sûr, mais on peut pas dissocier comme ça. Et Kerouac pouvait pas dissocier un écrivain de sa prose.
Mais quand même, quand il dit que les grands écrivains, c'est forcément ceux qui ne reçoivent pas de prix, tu ne trouvais pas que c'est quand même un peu populiste presque, non?
Non, ils étaient dans une optique contestataire radicale. C'était dans leur vie, c'est-à-dire... Ginsberg a évolué vers une position gauchisante, Kerouac est plutôt devenu anarchiste, on pourrait même dire peut-être anarchiste de droite, mais je crois pas trop à ces choses-là, il était trop confus, mais je dis pas ça péjorativement.
Ça rapprocherait de Céline.
Oui, mais je pense qu'il était, c'est un lecteur remarquable, donc il était capable de voir la force de la prose célinienne et la novation de la prose célinienne. Je veux dire, c'était avant tout un rapport esthétique, parce que il devait pas savoir grand-chose de la vie de Céline. Et de même que celle de Proust, qu'il admirait aussi. Non, moi, je pense que le fait qu'il réfère à Céline, qu'il se réfère à un certain nombre d'écrivains français qu'il cite, encore qu'il n'aimait pas trop les existentialistes, il les trouvait trop noirs, trop athées. Lui, il était des dieux.
Oui, il avait besoin de transcendance,
voilà,
quoi qu'il arrive.
Oui. D'ailleurs, il a vécu des expériences spirituelles très fortes. Et en particulier, un texte que je conseille s'appelle « Les cris de l'éternité d'or », qui est un texte visionnaire qu'il a écrit en 1956 dans la cabane de Gary Snyder, lui-même très engagé dans le bouddhisme, et qui est un très très beau texte, magnifiquement représentatif de ce qu'était Kerouac.
Parce
aussi.
Que la drogue, c'était peut-être aussi spirituel, justement.
Alors, l'utilisation, je m'avance un peu, mais je crois pas me tromper, l'utilisation par la Beat Generation des ingrédients hallucinogènes et compagnie était à base d'expérimentation du mental.
Il voulait scientifique élargir. Alors
hein?
Scientifique, expérience scientifique.
Oui, ou simplement élargir mes perceptions pour que je vois encore plus de choses et que ça me stimule dans l'écriture. Après, évidemment, la chimie peut commander et on devient addict. Je crois que Kerouac a plus été addict de l'alcool que encore que les amphétamines, il en a consommé beaucoup.
Donc c'est pas pour oublier le monde trop dur, c'est pas
non.
pour...
À mon avis, je les dédouanerais de ça, je les exonère d'une facilité. Ils étaient en recherche permanente, et surtout dans ces années cruciales qu'on a évoquées. Et c'était entre 40 et 50, où ils sont personne. Personne ne les connaît, ils sont rien. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, c'est que trois types, je les récite, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, se retrouvent dans un bar, le West End Bar, 114e rue, en face de l'Université de Columbia. Ils sont paumés dans la vie. La vie est dure pour eux. Deux sont des homosexuels qui vivent une situation difficile par rapport aux bonnes mœurs américaines. Ils ne sont pas dans une phase de purification sexuelle comme on l'est actuellement, avec toutes ces histoires qu'on nous raconte du jour au lendemain sur les harcèlements et compagnie. Bon, on peut en discuter, c'est pas notre sujet. Mais ils détonneraient hein, dans notre contexte actuel.
Parce que pourtant, on les célèbre aujourd'hui.
Oui, mais parce que ils sont morts. Donc, revenons à cette élaboration de la vision nouvelle et propédeutique à la Beat Generation. Ils sont dans une recherche exaltée et exaltée et en même temps intensive de la nouvelle vision du monde. Il faut inventer autre chose que ce que cette Amérique nous propose à ce moment-là.
Et alors dans ces trois-là, Burroughs, vous l'avez cité, il a peut-être un rôle particulier parce que lui, c'est le plus âgé. Quand ils se rencontrent, Burroughs a 30 ans, alors que Ginsberg en a 18, Kerouac en a 22. C'est donc le passeur.
C'est le mentor, il a une autorité, il connaît beaucoup de choses, il est très cultivé, il a vécu en Europe, il a vécu en Autriche, il a vu la montée du nazisme, il a été étudiant en anthropologie à Harvard, il connaît bien la littérature européenne et c'est lui qui va les initier à la littérature européenne. Encore que je répète que Kerouac avait été initié par Sébastien Sempas à Rimbaud, et compagnie. Mais néanmoins, c'est quand même Burroughs qui va être le mentor, et aussi le mentor dans la vie. C'est-à-dire que Burroughs a franchi le pas de la transgression. Lui, il fréquente les truands. Il connaît les dealers, il connaît tout le monde. Donc il va leur dire les types marginaux, c'est eux qui sont en train de porter la vision nouvelle. Il faut aller les voir, il faut vivre avec eux. Donc il va leur faire passer le Rubicon. Et ils vont connaître, comme Herbert Honecke que j'ai cité tout à l'heure, qui est un authentique truand, quoi. Il est à la fois prostitué homme, il est revendeur de cam. Bon, voilà, c'est les gens qui errent autour de Times Square et les bars de Times Square. Et ils vont même tous avoir des histoires, ils vont aller en prison, hein. Ils vont tous soit la psychiatrie, soit la prison. Ils vont goûter des deux.
Et puis il y a cette histoire avec Carr quand même,
oui,
qui est assez
oui.
extraordinaire, enfin oui. effrayante.
Bah, Lucien Carr était un ami de Eddie Parker, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui a introduit Ginsberg dans l'intimité de Kerouac et plus tard Burroughs. Mais il était lui pas un littéraire du tout, puisqu'il a fini à la Associated Press.
On écrit quand même à la Société de Presse. Bon,
oui,
on écrit des phrases courtes.
Oui, mais il était plutôt un cadre. Et il était très, très androgyne. Il a eu une histoire qu'il n'a pas provoquée, peut-être qu'il l'a provoquée, mais enfin, il a eu une histoire avec un prof qui le désirait beaucoup. Et puis, au cours d'une tentative de viol, peut-être, ou tout au moins d'agression sexuelle, que Carr a très mal vécu, il l'a poignardé, le professeur Caméraire, et qui est mort. Et Kerouac a aidé Carr à dissimuler le poignard de la Rix.
Oui, le corps a été jeté aussi
dans l'Hudson.
Oui.
Et alors que Kerouac a été emprisonné comme complice, Carr a fait 2 ans de prison.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Non, mais parce qu'il était en légitime défense, dans un sens. Et puis Kerouac a fait 15 jours de prison et libéré sous caution grâce à Eddie Parker, enfin la famille d'Eddie Parker.
Alors parmi les petit, grand truand, truand moyen, on trouve évidemment Neil Cassady, oui. Yves Buin.
Alors, Neil Cassady, c'est vraiment le personnage de la Beat Generation. Il va insuffler la vie à tout le monde, une vie débordante, et alors là, effectivement, chaotique.
Donc lui aussi, il a fait de la prison.
Il a fait de la prison. Il a été, si l'on veut, un adolescent difficile, avec des conduites à risque, et qui très tôt a franchi le pas vers la transgression.
Conduite à risque, on entend le psychiatre, le pédopsychiatre.
Non, mais c'est-à-dire qu'il a volé des voitures, il vivait d'expédients, bon, il avait du cœur. On sait qu'il a beaucoup aimé ses enfants, même si c'était pas un père parfait. Il était partageux. Il a beaucoup aidé Kerouac. Il l'a beaucoup soutenu. Alors, ils ont eu une amitié profonde, avec évidemment des disputes et des retrouvailles. C'était pas non plus la sérénité absolue. Mais Cassady, c'est ce qu'on appellerait peut-être. Oui, les termes sont très très réducteurs, mais ce qu'on appellerait peut-être un sociopathe ou un psychopathe, c'est-à-dire c'est un type qui n'avait pas de règles, qui était dans l'impulsion, mais qui était dans la vie en même temps et qui était un autodidacte, qui s'était cultivé aussi tout seul et qui était un professeur de vie. De la vie débridée, de la vie sans limite, de la vie exubérante.
Et c'était un jouisseur, et c'est ça qui fascinait Kerouac. Donc ils vont partir sur la route tous les deux, en fait. Neil Cassady, c'est vraiment le personnage principal de Sur la route.
Oui, c'est Dean Moriarty. Oui, c'est le personnage principal de Sur la route. C'est le héros solaire, comme l'appelle Kerouac. Kerouac, à l'époque, est très timide. C'est un homme qui est timide, qui vit dans l'écriture, qui vit dans ses projections littéraires, qui n'a que de soucis que de littérature, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quotidien était assuré par sa mère. Et il est fasciné par cette personnalité tout à fait effervescente qu'est Neil Cassady.
Et en même temps, Neil Cassady est toujours lucide sur Jack Kerouac.
Oui. Il est lucide, c'est-à-dire que il connaît les limites de Kerouac, mais il
qui sont ces limites?
Les limites, la culpabilité qui empêche Kerouac de faire le saut par quelquefois, le rapport aux femmes qui est complexe chez Kerouac. Qui finalement se contente très bien de connaître les prostituées noires qu'il aimait
beaucoup. C'est ce qu'il préfère, en fait.
Oui, c'est ce qu'il préfère. Il est pas très sentimental dans ses histoires. Il va faire pas mal de dégâts, ne fût-ce qu'avec sa fille, dont il avait dénié la paternité, qu'il a eue avec sa deuxième femme, Johanna Verti, et qu'il verra que deux fois dans sa vie.
La compagnie des auteurs sur France Culture et en particulier Lester Young, saxophoniste célèbre des années 50, mais vous l'aviez évidemment reconnu, comme j'imagine beaucoup de nos auditeurs, parce que vous êtes un passionné de jazz. C'est lié, j'imagine, à votre passion pour la Beat Generation.
Effectivement, puisque le terme de jazz poète a été forgé par Kerouac.
Il l'a dit, je suis le jazz poète.
Oui, et de même que, par exemple, un poète moins connu, mais qui s'appelle Ted Jones, un black américain qui a été ami de Kerouac et qui a été aussi un surréaliste puisqu'il a rencontré André Breton, etc., avait écrit sur son t-shirt « Jazz is my religion ». Eh ben, on pourrait dire la même chose de Kerouac. Kerouac a adoré le jazz. Il a pas que le, il adorait la musique. Il plaçait Bach au-dessus de tout. Il aimait beaucoup Tchaïkovski. Mais le jazz était son quotidien, sa respiration.
Quand vous dites respiration, ça signifie aussi qu'il s'en inspire pour écrire, qu'il en a besoin pour écrire, et que c'est un souffle de son écriture.
C'est-à-dire que sa prosodie et son rythme d'écriture et ses scansions sont très influencés par le jazz. Et en particulier, le parler des Noirs américains. Et il va, effectivement, on vient d'évoquer Lester Young, il va avoir une très grande dévotion envers Lester Young, qu'il a rencontré, qu'il a interviewé avec Billy Holiday. On n'a peut-être pas le temps, mais l'anecdote vaudrait le coup, mais enfin, bon, on n'a peut-être pas le temps.
Bah, si elle vaut vraiment le coup, on va prendre le temps.
Bah, c'est-à-dire que il avait 20 ans ou 21 ans. Il écrivait pour The Spectator, qui était le journal des étudiants de Columbia. Et il fait une interview de Lester Young et de Billy Holiday. Donc, il a rendez-vous après les 7 dans un bar avec eux. Et Billy Holiday avait 27 ans à l'époque, et Lester, elle en avait 30, quoi. Et il voit ce genou un peu gauche, un peu timide, leur faire une interview. Et ils sont tous les deux très... Billy Holiday est une maîtresse femme, très libre. Elle a eu une enfance très dure, très difficile, certes, mais c'est une femme très libérée, très... une femme qui vit sa vie comme elle a envie de la vivre, et puis elle est géniale. Et elle aime les hommes. Et elle se dit, le petit Kerouac, qui était très beau, et il est un peu à mon goût. Et Lester Young, il voit que Kerouac est tellement emprunté, il lui tend un joint, il lui dit, allez mon petit gars, fume-moi ça et tu m'en diras des nouvelles.
Yves Buin, quel était le rapport à la célébrité de Kerouac? Parce que après la sortie de Sur la route, il devient un représentant vraiment de quelque chose qui sans doute le dépasse. Et vous dites dans votre biographie, rééditée de multiples fois depuis sa parution il y a une dizaine d'années, c'est à cette occasion, donc 57, que commença et s'amplifia son malheur.
Oui, je vais répondre à votre question, mais je voulais terminer sur le jazz. Parce que autant j'ai parlé de la dévotion vers Lester Young, il a une identification complète à Charlie Parker, le grand Charlie Parker, et il lui dédiera les Mexico City Blues. Il aura une influence Parker sur son écriture. Alors la célébrité, il va pas supporter. Il va pas supporter parce que c'est un grand solitaire. Je suis fou, mystique, catholique et solitaire. C'est la définition qu'il se donne de lui-même. Donc il va pas supporter d'un seul coup d'être projeté dans l'actualité avec les caméras partout, tous les gens qui vont vouloir se réclamer de lui. Il n'est pas du tout le pape. C'est des expressions médiatiques idiotes. Il n'est pas du tout le pape de la Beat Generation. Il va fuir.
Et c'est ça qui le tue, parce qu'il meurt quand même très jeune.
Il meurt à 47 ans, épuisé, alors que c'était une forte nature, parce que par un alcoolisme de plus en plus important, et là qu'est véritablement la fuite du monde. Là, il était très malheureux. Mais comme tous les grands vivants, je veux dire, on vit la vie à 100 à l'heure, mais la vie se termine toujours. Donc on comprend pas pourquoi elle se termine. C'est la grande interrogation existentielle de l'homme. Pourquoi je suis mortel? Et Kerouac, elle l'a vécu en plus comme un catholique. Hein? Voilà. Donc la célébrité, c'est... Non, il va pas supporter.
Merci beaucoup, Yves Buin. Et maintenant, si vous le voulez bien, un peu de poésie.
Holy, holy, holy.
La poésie, on ne la quitte pas sur France Culture. 15h54, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé toute la semaine en écho à l'Euro de football qui se tient en ce moment, si vous ne le saviez pas, en France. Il vous propose des dribbles poétiques.
Bonjour, nous attaquons la semaine balle au pied, engageant la partie avec exceptionnellement des pages de roman, d'un roman au titre lyrique « Chant furieux » de Philippe Bordas. qui nous ramène à l'époque où Zinedine Zidane, empereur, régnait sur le football. Zidane courait devant moi, je cavalais derrière. Nous allions faire le livre géant, la Bible à 1000 vignettes, l'aérolithe le plus gros jamais chu aux étals des libraires, ses portraits par myriades, des centaines de médaillons, vignettes et driblettes, toutes ses jongleries. L'épopée, car c'en est une épopée, épopoya, long poème à la gloire d'un héros ou d'une nation, mêlant souvent le surnaturel et le merveilleux au récit des exploits et des hauts faits, l'épopée du grec épos, parole d'un chant vers, et poème, faire, d'où épopoya, poème épique. L'épopée propulse le champion et son héros, son chantre, photographe, écrivain, Bordas, à travers l'Europe. 100 jours, 100 jours. D'avril à juillet, je n'ai rien fait d'autre, obsédé de Zidane, de la fin du printemps jusqu'au début de l'été. Je n'ai rien vécu, Zizou à l'esprit, Ziz dans l'œil. Je n'ai rien fait d'autre, pendant 100 jours, moi qui n'aime pas le foot, le plus nul de la cité. J'ai couru derrière lui, je suis resté collé, devant et derrière, et loin et près, demi-fou pendant 10 semaines, les 100 derniers jours, du printemps jusqu'à la finale mondiale, ce soir d'été, le coup de tête, le match de Berlin contre les Italiens. Chant furieux est un sprint de Philippe Bordas. Il sera entrecoupé par les pages de Walt Whitman, Rilke, Pindar, Racine, Janvier. Dans les vestiaires s'agite Walt Whitman. Voici chanson de moi-même extraite de Des feuilles d'herbe. Je me célèbre moi-même, me chante moi-même. Toi, tu assumeras tout ce que j'assumerai, car les atomes qui sont les miens ne t'appartiennent pas moins. Zidane voulait s'inventer danseur et point. Il ne cherchait rien de plus en équipe bordelaise, turinoise ou française qu'à recomposer une bande d'irrésistibles comme sur le parvis de la Castellane. Il voulait briller avec des frôlots premiers crus, quel qu'en fût l'épiderme, et filer allant diable comme un minot assorti d'un fretin de lascar à 6 dialectes et 8 coloris. Jamais Zidane ne s'était pensé en héros de la France métisse, gardien du blason franc et des armoriaux rabza et afro. Chanson de moi-même. Fanfare puissante en tête, j'arrive, me voici, avec cornets et tambours. Je ne joue pas de marche pour les élus seuls, je joue pour les victimes, les vaincus. Qui vous a dit que la victoire était bonne? Moi, je prétends que l'échec n'est pas moins bon, que les batailles se perdent comme elles se gagnent du même cœur. Donc, je martèle, je bats mes timbales pour les morts. Pour eux, je souffle très haut ma joie aux embouchures. Bravo à ceux qui ont échoué, à ceux dont les vaisseaux ont sombré dans la mer, à ceux qui dans la mer se sont eux-mêmes noyés, aux généraux victimes des combats, à tous les héros défaits, à toute l'innombrable foule des héros inconnus, égaux des plus connus dans la gloire. Chanson de moi-même est traduite par Jacques Darras et s'est publiée en Poésie Gallimard Poche. Demain, nous continuons ce chant furieux. Peu de poètes ont écrit sur le football. La FIFA préfère le silence, m'a glissé Philippe Bordas, qui n'est pas fou du tout.
Vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
h 58, Jacques Bonnafé lisait des extraits de ce chant furieux et des chants de moi-même dans la compagnie des auteurs au premier jour d'une série d'émissions que nous consacrons à la Beat Generation. Et aujourd'hui, c'est de Jack Kerouac qu'il était question grâce à Yves Buin qui a publié en 2006 une biographie depuis rééditée de Kerouac, disponible en folio. Il est également l'auteur, l'éditeur du Quarto Gallimard intitulé Sur la route et autres romans. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou nous retrouver et nous retrouver également sur les réseaux sociaux. En attendant, demain, même heure, une émission consacrée donc à William Burroughs. Ce sera avec Gérard-Georges Lemaire. Cette émission était réalisée par Vincent Abouchard. À la console, il y avait Tristan Gratalon. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Dans un instant, Continent Science, Stéphane Delis-Georges sur France Culture.